Pascal Serré.
On est de retour à l'émission avec notre chroniqueur du lundi, ouais, à 10h11. Il est fidèle au poste, bien installé, devant du soleil. Je sais pas, il se trouve où. Je sais qu'il est à son chalet en ce moment. Là. C'est un endroit où il aime travailler à distance, le télétravail. Tellement rendu populaire, ce télétravail-là. Il s'appelle Frédéric Bérard. Il est chroniqueur, avocat et aussi auteur. Salut, Fred!
Salut, Pascal!
Bon lundi matin. Je comprends pas, t'es où pour avoir du soleil comme ça? Tout ce que je vois, effectivement, c'est des éclaircies de ton côté. Quand nous, c'est humide et clairement nuageux.
Écoute, je suis dans le fin fond de Lanaudière, dans le fin fond des bois, et je suis dans un microclimat. Alors, faut pas se fier sur moi ou en fait le climat dans lequel je me trouve pour à titre de baromètre québécois.
OK, t'es vraiment dans une sphère privilégiée, c'est ça que je comprends?
Ben... écoute, je veux pas écœurer personne avec ça, mais oui, un peu quand même.
OK, c'est régulier là, qu'il fait soleil quand il pleut ailleurs, dans ton petit coin de paradis. Hey, Frédéric, aujourd'hui, on a un gros... pour vrai, on a un gros segment ensemble de choses pas nécessairement joyeuses, mais beaucoup d'éclaircissements judiciaires. Je vais le dire comme ça parce que, veux, veux pas, il y a des dossiers importants dans l'actualité en ce moment, puis ils sont pas nécessairement heureux, mais on comprend pas toutes les particularités quand on n'est pas avocat, j'ai l'impression. Particularités, entre autres, autour des campements du côté de McGill. On veut savoir ce qui se passe parce que ça crée quand même des agitements, là. Ça crée des confrontations, des tensions. Puis quand on regarde à l'extérieur du pays, on voit où ça peut se rendre si jamais on décide d'être malfaisant. Il y en a eu aussi des débordements un petit peu du côté de Montréal, on le sait. Mais là, il y a des campements pro-palestiniens du côté de l'Université McGill à Montréal. C'est une centaine de manifestants qui font partie aussi de ces manifestations-là. Mais les campements sont problématiques, puis ça fait quelques jours déjà, entre autres le gouvernement Legault, qui a eu une demande de démantèlement. Comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est encore en place, ce campement-là?
Bien, écoute, c'est assez simple. Hein? Au Canada, au Québec, il y a une liberté fondamentale qui est protégée de façon claire et nette, c'est la liberté d'expression. Ça inclut le droit de manifester. Là, il y en a qui se disent « ouais, je comprends, mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. » Puis ça, c'est vrai, il y en a des limites, notamment le droit à la sécurité. Hein, si tu exerces ta liberté d'expression puis ça crée un problème pour la sécurité d'autrui, là, évidemment, il va y avoir un enjeu. Même chose, puis quand je parle de sécurité, c'est au sens très large. Hein, s'il y avait, par exemple, des propos style propagande haineuse, bien là, ce serait évidemment la même chose aussi. Or, la Cour supérieure du Québec a décidé mardi dernier, si je ne fais pas erreur, parce qu'elle avait entendu une injonction, à savoir, est-ce qu'on démantèle le campement en question. Ouais. Puis la Cour supérieure a entendu les deux parties. Elle a vu la preuve qui a été déposée devant elle. Puis elle dit, je vois pas c'est quoi le problème. Là. Je vois pas c'est quoi l'enjeu. Il n'y a pas de problématique de sécurité. Il n'y a personne qui est empêché de pouvoir se promener, d'accéder à l'université, par exemple. Il n'y a pas non plus, selon la Cour, évidemment, de preuve que de la propagande haineuse est tenue. Elle dit, oui, il y a eu des propos malheureux à gauche, à droite. Mais ça ne suffit pas en soi pour renverser, si on peut dire, l'application de la liberté d'expression. Puis elle a dit aussi, puis moi je suis d'accord avec ça, hein, la liberté d'expression, ça fait en sorte que parfois, ben, on va être un peu mal à l'aise, on va être un peu inconfortable parce que ça fait bouger les affaires. Puis nous, on n'est pas habitués de voir ça, des campements, puis on aimerait mieux qu'il n'y en ait pas parce qu'on aime bien notre petite vie tranquille. Bien, la liberté d'expression, elle sert à ça, elle sert un peu à provoquer, à faire bouger les trucs. Hein. C'est la pierre d'assise de la démocratie à bien des niveaux, cette même liberté d'expression-là, même si on n'est pas d'accord avec le contenu, puis même si on n'est pas d'accord avec le contenant, c'est-à-dire, par exemple, une espèce d'occupation d'un campus.
Ouais. Moi, c'est là où que j'ai un malaise, en fait, là. C'est avec le camping qu'on a du côté de McGill. Je ne l'aimais pas plus du côté d'Ottawa, de prendre possession d'un endroit. C'est pas la même chose dans ma tête qu'une manifestation, par exemple, qu'on dise le chemin ou pas, ça c'est depuis les carrés rouges là, qu'il faut dire le chemin d'une manifestation, mais il y a comme une élévation des tensions, il y a des jeunes qui se sont fait apostropher, qui voulaient juste aller à l'école. D'abord et avant tout, je répète mon positionnement face à des manifestations pro-palestiniens ou pro-israéliens. Je trouve que ceux qui paient le plus dans tout ce qui se passe, ce sont les citoyens. Donc, d'élever des tensions comme ça, puis à l'international, la problématique est là. On en a contre l'organisation terroriste du Hamas. On en a compte des décisions gouvernementales aussi. On en a compte toutes ces violences-là, des gens qui se font tuer, des gens qui se font enlever tout ce qui est besoin primaire à la survie. Mais c'est d'élever aussi une tension entre deux peuples qui, au final, auraient pu enfin se retrouver peut-être dans les 10 prochaines années après des conflits religieux qui dépassent l'entendement du côté territorial. Mais là, on amène ça ici, on amène ça au Québec, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Ça peut déborder. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler en amont dans ces moments-là? Ce serait vraiment de brimer littéralement l'être humain dans son droit de parole, dans sa liberté d'expression, que de dire « bon, pour les campements, c'est non ».
Bien, soit, c'est parce que je pense que ton propos rejoint un peu ce que je suis en train de dire, dans le sens où toi, tu trouves ça déplorable, tu trouves ça dommage, on devrait faire plus X, plus faire Y. Puis ça, c'est ton opinion, puis elle est évidemment légitime, elle est valable. Mais tu dis la Cour, puis moi, je suis d'accord avec elle là-dessus, c'est les opinions d'individus ne peuvent pas empêcher celles d'autres individus. Ouais. Il ne faut pas oublier une affaire aussi. Tu sais, on parle de campement, mais c'est quand même sur un campus universitaire. Or, s'il y a bien une place où la liberté d'expression devrait pouvoir prévaloir, c'est évidemment sur un campus. Tu sais, je veux dire, si elle est campée dans ta cour arrière chez vous, je ne dis pas. Ouais. Si elle est dans mon salon, je ne suis pas sûr. Mais sur un campus, c'est quand même pas... Comment je te dirais, c'est un lieu privé en quelque sorte, ça appartient à McGill, mais une université, c'est un lieu de haut savoir où on veut qu'il y ait des échanges d'idées, où on veut qu'il y ait des prises de parole, puis je le répète parce que c'est important de bien le comprendre, hein? La liberté d'expression protège notamment ce qu'on n'aime pas. Si tu veux qu'il y ait une liberté d'expression uniquement pour ceux et celles qui pensent comme toi, comme disait Noam Chomsky, ben, il dit dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un outil pour déranger, pour provoquer. Puis parfois, c'est juste déplorable. Parfois, c'est juste poche. Moi, je te donne un exemple. La manif des truckers à Ottawa, l'année passée, pour les mesures anti-vax, mesures sanitaires, moi, à titre personnel, je la trouvais absurde, cette manif-là. On comparait Trudeau à un dictateur, toutes sortes de trucs de genre. Je trouvais ça absurde. Sauf que, ils avaient quand même le droit de le faire. Jusqu'à un certain point, puis le certain point, c'était quoi? Mais c'est parce qu'à un moment donné, la capitale nationale a été paralysée, ni plus ni moins, pendant plus de 3 semaines.
Socialement, économiquement et tout. Là, ouais.
Il y avait des enjeux de sécurité aussi, en quelque sorte, bon, blablabla. Bla, bla. Fait que bref, tu vois, mais pour le contenu, c'est pas à moi, Bérard, de dire « Ah, cette manif-là, elle devrait avoir lieu, cette manif-là doit pas avoir lieu. » Écoute, c'est pas des farces. Les antivax avaient même empêché une journée de vaccination au stade olympique à côté de chez moi, au motif que c'était un... Comment est-ce qu'il avait appelé ça? C'était un abattoir, bon, des trucs du genre. Est-ce que là, on était allé trop loin? La question se pose. Mais reste que même ce discours-là, même si je le trouve absurde, je pense que c'est quand même important de pouvoir le défendre, en quelque sorte, dans le cadre de cette même liberté d'expression.
Et là, s'il n'y a pas de violence ou de montée de tension, exactement, malgré qu'il y a eu certains débordements d'individus précis, des Juifs qui se sont fait interpeller et tout sur le campus, ils sont encore dans leur droit d'y être avec ce campement-là du côté de l'Université McGill. Je sais que vendredi dernier, le premier ministre a encore demandé le démantèlement, mais au moment où il y aurait tension ou autre, si, admettons, le groupe n'était pas capable de se tenir dans une non-violence, une liberté qui n'arrête pas celle des autres aussi. Est-ce qu'on passerait à un démantèlement?
Ben là, tu vois, là, tu as mis le doigt sur deux choses super importantes. La première, c'est que la Cour supérieure a évalué qu'il n'y en avait pas de débordement à cette étape-ci. Mais si pour en avoir éventuellement, ben là, ça va être autre chose. Là, l'injonction pourrait être accordée, tu comprends? Mm-hmm. Donc, tout est une question de... Puis on s'entend, là, c'est un peu abstrait, c'est un peu subjectif. À partir de quand la preuve est suffisante, c'est pour ça qu'on a des juges. L'autre volet, c'est le volet Legault. Ça, je te dirais que c'est le plus problématique. Parce que là, tu as un premier ministre qui, le lendemain d'une décision de la Cour supérieure qui a évalué la preuve, s'en va ordonner à la police de démanteler un camp. Je disais, mais ça n'a aucun maudit bon sens. C'est pas un premier ministre de dire aux policiers quoi faire ou ne pas quoi faire.
Et les policiers se retrouvent entre l'arbre et l'écorce parce qu'ils n'ont pas à réagir selon les propos du premier ministre non plus dans cet enjeu de social-là.
C'est rendu, c'est les premiers ministres qui vont décider comment la liberté d'expression peut s'exercer, puis qu'est-ce qui peut être dit, puis qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Je veux dire, d'ailleurs, tu as vu, hein, les policiers ont dit, ben là, nous, le SPVM dans ce cas-ci, nous, on prend acte de la décision de la Cour supérieure, puis on va suivre ça de près. En d'autres termes, quand les tribunaux vont nous ordonner Hein,
De
d'agir,
passer à
ben,
l'action, oui.
pas. Mais c'est parce que là, c'est drôlement différent. Imagine-toi, tu as Legault qui fait fi de cette décision-là et décide que moi, je vais envoyer la police. Mais c'est parce que tu n'as aucun pouvoir réel sur cette même police-là. La police est indépendante dans le cadre de ses opérations. Puis on veut ça. Puis pour savoir comment doivent se dérouler les opérations en question, bien, ça dépend des tribunaux qui a évalué la liberté d'expression. Ce n'est pas un premier ministre de décider ça.
C'est fascinant de voir aussi comment ça déchire au sein même de l'université, parce qu'on dit que l'université McGill serait pro-Israël dans ses positions. Puis là, le porte-parole du campement dit qu'il faut que l'université McGill change ses politiques et c'est pour ça qu'ils mettent de la pression là-dedans. Puis il y a des gens aussi qui nous écrivent par texto. Mais c'est pas l'université qui prend une certaine position que de permettre ça. Il y en a qui disent que le Québec est pro-Palestine et que la sécurité des étudiants juifs n'a aucune importance dans ce cas-ci. Ça se déchire là, au sein même des opinions collectives, là.
Bien, tu vois, l'affaire, c'est que moi, je serais d'accord pour démanteler les campements si c'était clair qu'il y avait de l'antisémitisme, s'il y avait des messages haineux dirigés vers les Juifs, notamment les étudiants. Si c'était ça, je serais d'accord. Or, la Cour supérieure, qui a évalué la preuve, ce qui n'est pas mon cas, puis ce qui n'est pas le tien, je pense, a dit, bien, non, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de discours antisémite, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'appel à la
Des
violence.
individus là plutôt uniques qui ont créé un débordement, mais c'est pas le
Puis
campement
même
complet puis l'organisation.
débordement, je trouve qu'on a une certaine facilité avec le terme débordement au Québec. Puis c'est sûr que ça va déranger parce que c'est une posture qui critique le gouvernement d'Israël. Puis là, qu'on se comprenne bien, on peut critiquer le gouvernement de Netanyahou qui est d'extrême droite sans critiquer les Juifs, là. Puis d'ailleurs, ce qui est ironique, c'est qu'il y a plusieurs étudiants juifs qui sont dans le campement pro-Palestine en disant, je veux que le gouvernement de Netanyahou cesse le génocide, comme l'a qualifié la Cour internationale de justice. Donc, tout ça pour dire que le jour où ça virera, puis je doute que ça se rende là, mais en discours antisémite, là, ce sera autre chose. Mais la Cour supérieure qui a évalué la preuve dit, on n'est pas là pour l'instant. Donc, ben oui, ça va déranger, puis que ça dérange, puis c'est ça que ça sert une université à déranger et à provoquer.
Frédéric Bérard, deuxième sujet d'aujourd'hui, c'est particulier. Il y a la Cour suprême qui vient d'entrer dans un dossier et qui a même ordonné un nouveau procès. On est dans la Cour suprême aujourd'hui, pas mal, mais qui a ordonné un nouveau procès pour un francophone de la Colombie-Britannique, qui lui a dit hey, je viens de subir un procès, mais j'ai pas été informé de mon droit à un procès dans ma langue officielle, donc dans ma langue française, et donc j'ai subi un procès en anglais. Je demande à ce que on fasse appel de ma condamnation pour agression sexuelle au motif que mes droits linguistiques aient été violés parce qu'on n'y avait pas dit justement que son procès pourrait se dérouler en français s'il le souhaitait. Ça, c'est un droit qui est garanti. Puis on le comprend, on veut comprendre si jamais on est accusé hein, pendant que ça se passe, ce procès-là. C'est l'article 530 du Code criminel qui stipule que tout accusé a le droit de subir son procès dans la langue officielle de son choix. Là, moi, je lisais tout cet article-là. Ça reste des accusations d'agression sexuelle, c'est important et tout, mais ce qui va vraiment attirer mon attention, c'est, ben voyons donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas tenu au courant qu'il avait le choix de choisir sous quelle langue allait se dérouler son procès quand on est acteur de la justice et qu'on sait pertinemment que ce revirement de situation-là peut arriver, soit une demande de reprise de procès, une demande d'un nouveau procès, à faire perdre du temps, à faire perdre de l'argent, à faire perdre toute crédibilité aussi au système de justice dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on en arrive là? Quand on connaît la loi et qu'on est acteur de la justice, à ne pas informer le dit client au risque qu'on retourne dans un procès.
Écoute, un petit retour vers le passé, si tu veux bien, qui va témoigner à quel point comment je dirais, ton inquiétude ou ta réaction est pertinente,
Mais
ben, disons
c'est
ça.
une critique rendue là, puis je l'assume.
Ta critique acerbe. À la fin des années 90, la Cour suprême a rendu un arrêt, c'est l'arrêt Beaulac. Et l'arrêt Beaulac, c'était quoi? C'est drôle parce que c'était justement un francophone du Québec en Colombie-Britannique qui est accusé de meurtre. Et lui, il demande en Cour supérieure à ce que son procès soit tenu en français. Et là, le juge de la Cour supérieure, ça a été réitéré en appel, dit, ben là, écoute, là, c'est parce que tu parles anglais comme moi, tu comprends absolument tout ce qui se passe en anglais, puis d'ordonner un procès en français, ça va être un paquet de troubles parce que, un, ça va prendre un juge qui est au moins bilingue, ça va prendre 12 jurés minimalement bilingue aussi, sinon francophone. Puis t'es trouvé deux jurys francophones en Colombie-Britannique, c'est pas toujours évident. Ça va prendre un procureur de la couronne bilingue ou francophone. Il va falloir traduire tous les documents. Écoute, tes principes de justice naturelle, c'est-à-dire ton droit à l'équité, à l'indépendance, l'impartialité, ne sont pas violés. Arrête de niaiser. Tu comprends l'anglais comme moi. On va faire ça en anglais, puis ça finit là. Or, rendu en Cour suprême, c'est juge Michel Bastarache, et ça, c'est important de le rappeler, qui a longtemps travaillé en Colombie, pardon, au Nouveau-Brunswick avec les Acadiens, les francophones, qui était juge à la Cour suprême, qui a convaincu les autres juges que c'était important que le francophone puisse choisir de subir un procès dans la langue de son choix, que ce soit le français ou l'anglais, peu importe le reste. Et tu vois, l'arrêt Beaulac, donc, est clair, net et précis. 530, l'article 530 du Code criminel auquel tu viens de référer, doit permettre ceci. Tu choisis la langue de ton procès, point barré, puis l'État a à s'ajuster. Que tu sois dans le fin fond de la banlieue de Moose Jaw ou Red Deer, c'est pas ton problème, c'est le problème de l'État. Or, cette décision-là à laquelle tu nous fais référence ce matin, c'est comme un mauvais retour vers le passé. Vous dites, coudonc, vous n'avez pas appris de votre leçon,
Puis,
là.
au même titre qu'on dit à certains accusés, nul ne peut ignorer la loi, nul ne peut ignorer cet article de loi-là au risque d'avoir à refaire perdre du temps et de l'argent aux contribuables puis au système de justice. Puis en plus, on ne sait pas ce qui va advenir là, dans ce prochain procès-là. Là.
Et parce
Peut-être que le
que.
gars va s'en sortir quand il était accusé. On a déjà vu ça.
Oui, on a déjà vu ça, puis je connais pas le dossier sur le fond, donc j'en ai franchement aucune idée. Mais pour poursuivre là-dessus, puis finir peut-être, pourquoi c'est important d'avoir un procès dans sa langue? Moi, Michel Bastarache, écoute, moi j'ai écrit un livre là-dessus sur les droits des francophones hors Québec. C'est Michel Bastarache qui l'a présenté le livre à mon lancement. Donc je connais, pour ça que je te raconte ces histoires-là, parce que Michel me les a racontées. Puis il m'a raconté aussi qu'il était obligé d'aller voir tous les autres juges, les 8 autres juges de la Cour suprême. Pour les convaincre dans l'arrêt Beaulac dont je t'ai parlé, que c'était essentiel. Pourquoi? Parce que le francophone, ben, il a beau être bilingue, quand il s'exprime en anglais, c'est jamais autant précis,
Non.
c'est jamais autant juste. Même chose pour les jurés qui l'écoutent, même chose pour un juge. Et puis c'est ça qui fait en sorte que quand je vois des décisions comme celle-là, je me dis, coudonc, c'est parce que c'était évident que c'était ça que la Cour suprême allait dire, elle vous l'a déjà dit il y a 20 ans, 25 ans même.
Puis c'était juste de dire procès en français ou procès en anglais pour toi, cher individu. Là, ça donne en plus un gros bout du bâton à cet homme-là qui avait été accusé. Ça me dérange, puis on perd du temps. Peut-être qu'on a souhaité économiser du temps en disant, si on le fait en anglais, on a toutes les ressources en ce moment, on y va, on passe au procès. Puis au final, ben non, il s'est reviré en disant. Puis probablement que c'est son avocat, quand ils ont perdu, qui a dit, man, on a peut-être une petite possibilité ici de retourner en cour puis de réajuster le dit procès et la sentence sur votre cas, mon cher monsieur, mon cher client. Mais c'est gênant. Puis oui, moi, si j'étais accusé, bon, pas parfaitement bilingue, clairement pas dans les termes de droit et de justice, là. Fait qu'assurément, je voudrais que ce soit en français. Sachez-le, si un jour ça m'arrive, ça m'arrive, c'est pas supposé,
J'en prends bonne note.
mais ça me rappelle mon amie qui vit à Nashville depuis quelques années, qui, elle, quand elle revient à Montréal, puis elle revient auprès de nous, elle dit, oh, enfin, je retrouve ma personnalité. Mais elle est bilingue, là. Elle travaille
Oui.
en anglais et tout, mais ce qui est technicalité quotidienne, les farces, les jokes. Pour ça qu'elle dit, enfin, je retrouve ma personnalité là où elle est elle-même à 100 000 à l'heure. Fait que je comprends cet article qui avait été mis en
La
place.
langue, il ne faut pas oublier non plus, hein, ça la Cour nous dit aussi, la langue, c'est une question de culture. Hein, tu viens de le raconter avec l'expérience de ton ami à Nashville.
C'est pas juste
C'est
des
pas...
mots, oui.
C'est ça, c'est pas juste un vocabulaire, c'est une manière de penser souvent. Et donc, dans un procès, pour ta défense, ben, on ose croire qu'on va au moins te donner la chance d'être toi-même, puis après ça, on évaluera.
Ah oh là là, et je termine rapidement avec toi sur un sujet, mais très rapidement, Frédéric, parce que je trouve que c'est passé quand même sous la couverture. Rapidement, il y a eu un avortement clandestin à Montréal. On a jugé ça d'un acte odieux et barbare. Ça s'est passé là, quand même assez récemment. Là. On dit que c'est à Montréal en 2024. Je pense que c'est quand même cette année. Et c'est un supplice qu'une demandeuse d'asile a vécu. C'est sous le joug d'un conjoint qui l'a menacé là, de la découper en morceaux. Puis un préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD qui va rester détenu jusqu'à la fin de son procès. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu cet avortement clandestin. C'est le juge Salvatore Macia qui a pas mâché ses mots quand il était courant de tout ça début avril. Il y a un Montréalais de 35 ans accusé d'agression sexuelle grave. On ne dit pas le nom pour ne pas identifier la victime, mais la victime est débarquée au Québec en avril 2023. Elle n'a pas de statut au pays. Elle a rencontré l'accusé à l'église, dans une église, là, puis là, ils ont formé rapidement un couple. Il y a une preuve qui a été remise à l'enquête sur remise en liberté. Puis, ce qu'on dit, c'est que monsieur a commencé à battre sa conjointe à coups de ceinture. Il était vraiment très violent avec. Et à l'époque, l'accusé travaillait comme préposé aux bénéficiaires au CHSLD privé, le Cardinal. C'est pour ça qu'on parle de CHSLD puis de son emploi là-dedans. Il avait été suspendu sans solde depuis son arrestation. Et début janvier 2024, la femme en question est tombée enceinte. Puis, elle voulait garder l'enfant, mais son conjoint, il refusait. Fait qu'il voulait qu'elle se fasse avorter, mais ça a eu lieu, ça. C'est arrivé avec... c'est difficile à dire parce qu'on dirait qu'on s'imagine tout le temps un peu comme vous, si je vous parle d'un coup là où ça fait mal. Nous, un avortement à coup de brochette de barbecue, on ne sait pas c'est quoi la souffrance, mais on peut quand même avoir mal puis serrer un peu des dents. Mais ça a été fait comme procédure. Et ça, ça s'est passé à Montréal. Ça s'est rendu en cours parce qu'on était capable justement d'avoir le courage de se rendre en cours puis de jaser de ça. Mais comment est-ce que ça peut arriver? Puis précisons qu'on peut se douter que ça arrive plus souvent qu'on le croit. Comment est-ce qu'on peut procéder à un avortement de ce type-là dans un dossier où, je sais pas, moi, on n'est pas aux États-Unis, dans des États qui l'empêchent. Est-ce qu'on peut s'attendre à un jugement assez sévère envers l'accusé si jamais on est capable d'avoir toutes les preuves que ça s'est passé?
Ah oui, écoute ça, ce gars-là, là, il n'est pas sorti du bois, là, puis tant mieux. Puis comme tu dis, je suis content aussi que ça soit judiciarisé. C'est drôle, hein, parce que, ironiquement, la décision qui a rendu l'avortement possible au Canada, c'est la décision Morgan Taylor. Tu t'en souviens peut-être, le médecin Morgan Taylor qui pratiquait des avortements, même quand c'était criminel de le faire. La Cour avait décidé, ça c'est la Cour suprême, c'est une juge femme, Bertha Wilson, qui avait dit ceci, c'est que le droit à la sécurité physique et psychologique des femmes est mise à l'épreuve quand on interdit l'avortement. Et elle avait référé notamment à une pratique qui avait lieu à plusieurs endroits au Canada, pour ne pas dire un peu partout, c'est-à-dire justement des espèces de Joe Blow, de charlatans qui pratiquaient les avortements en question de manière absolument dans
tragique,
des conditions
qu'on ne
sait pas, là, parce qu'on est capable de les imaginer. Puis elle parlait aussi du fait que certaines femmes s'auto-avortaient, notamment avec le bon vieux classique du cintre, bon, puis ainsi de suite. Et j'arrête là parce que c'est absolument abject, mais c'était ça qui a fait en sorte, en bonne partie, puis il y avait d'autres concepts en jeu, là, l'arbitraire et tout, mais c'est ça qui a fait en sorte que l'avortement a été permis au Canada, en bonne partie. Donc, encore une fois, un retour vers le passé, retour vers le futur maintenant, 2024, ce que ce gars a fait.
C'est un Montréalais, je vous répète, là. C'est parce que des gens disent, ah, ce gars-là, on le retourne dans son pays. Non, c'était une demandeuse d'asile. Puis ça, c'est un Montréalais qui a fait ça.
En fait, ça peut être Jean-Michel Tremblay, là.
Peut-être, oui.
C'est absolument... écoute, je veux dire, c'est pas grand-chose de plus barbare.
Là, c'est barbare. Ce sont les mots utilisés. C'est un des mots utilisés par le juge, oui.
Et quand un juge utilise le terme barbare, là, c'est que le terme est pesé, puis le terme est réfléchi. Alors, très clairement, ce gars-là va passer un mauvais quart d'heure. Puis c'est-tu quoi, tant mieux qu'on envoie le message très fort que ce type de pratique, ben, il y a de ça 40 ans au Canada, là, on l'a abrogé, même quand c'était fait volontairement. Alors, imagine quand c'est fait de non-consentement.
Ouais. On va suivre ça parce que l'accusé va être en cours, de retour en cours en juin prochain. Puis moi, c'est un cas que j'aime suivre, là, parce que tu te dis, voyons, on a toutes les politiques ici pour pouvoir le faire d'une manière, plus humaine, malgré que ce soit super difficile pour les femmes qui le subissent malgré tout. Puis voilà qu'il y en a certains qui décident de le faire autrement. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Un excellent lundi ensoleillé dans ton coin de pays, comparativement au nôtre. Et c'est un bonheur de collaborer avec toi à chaque lundi.
Écoute, le plaisir réciproque, et puis il faut pas oublier, hein, ces bonheurs d'occasion, si ça se trouve, va mouiller sa tête dans quelques heures. Bon, à bientôt.
Mais la pluie, c'est apaisant. Faut voir du bon
Bien
dans
ça,
tout.
c'est lilifiant. À bientôt.
Salut Fred, merci Frédéric Bérard, avocat, chroniqueur, auteur. Vous pouvez le suivre sur toutes ces plateformes et ici le lundi à Boulevard 102.1. Ouais, il était chanceux, lui, il fait du télétravail du côté de son chalet puis il fait beau. Nous, c'est toujours alternance soleil-nuage avec de la brune dans certains secteurs. 12 degrés actuellement sur la capitale nationale. Ça peut monter jusqu'à 19, mais on sent l'humidité là. Elle est bien, 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 bien présente. Hey, vous m'avez demandé c'est quoi le proverbe d'aujourd'hui? Proverbe français. Qui demande, apprend. C'est pas mal ce qu'on fait, tout le monde ensemble, non? C'est ça.